Bonjour les devs, bienvenue sur Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et maintenant aussi d'IA. Salut Alex, comment ça va ?
Salut Patrick, salut tout le monde. Je suis super content de revenir sur un épisode de news à actualité du mois de mars où on va essayer de parler un peu de PHP, de CSS, de bonnes pratiques et de framework agent IA qui me paraît super, super intéressant. Donc je suis content d'être là.
Yes, on va remercier évidemment comme d'habitude tous les sponsors du podcast. Donc merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à vous. Et j'avais aussi un retour d'un auditeur Amine qui m'a fait un retour sur Preact. On avait parlé de Preact Signal la dernière fois dans l'épisode. J'avais parlé que c'était une alternative intéressante aussi pour faire du store, tout ça, au niveau d'une application. Alors lui, il a pas mal testé, il m'a fait des retours, il a fait des benchmarks aussi, et il a réussi. Alors ce qu'il me disait, c'est que il arrivait à faire planter Preact Signal sur sur un truc un peu tiré par les cheveux. Mais il m'a donné l'exemple de son application, tout ça, et effectivement, il arrive à faire planter. Donc voilà. Mais il a aussi fait des benchmarks dans sa boîte. Donc il travaille dans une boîte qui fait des logiciels. Et voilà, ce qui marche le mieux en fait dans l'ensemble, c'est quand même Signal, tout ce qui est intégré dans Vue, Solid, tout ça, tous ces systèmes-là marchent quand même beaucoup mieux que React au niveau de
Preact, tu veux dire?
Non, vraiment, tu sais, okay. Dans Vue, Vue, tout ce qui est réactif, ça marche avec Signal, etc. Oui. Dans l'ensemble, ça a des meilleures performances que tout le reste, en fait, qu'Angular ou React. Mais voilà, juste, il me faisait le retour par rapport, attention à Preact Signal. Voilà, quand c'est intégré, des fois, sur une grosse application, ça peut poser des problèmes. Donc, petite mise en garde, si jamais vous voulez tester.
Yes. Trop bien. On attaque tout de suite avec, du PHP, avec une release majeure. En même temps, elle avait été plus ou moins annoncée sur une LaraConf qui avait lieu, mais Laravel 12, maintenant, c'est officiel, c'est en place.
Ouais, ça vient de sortir le 24 février. Pas de grosse nouveauté. C'est même qualifié de boring release, donc c'est vraiment il y a pas grand chose. Par contre, il y a surtout il y a des nouveaux starter kits qui sont lancés. Donc c'est des starters où tu auras du React, du Vue et du LiveWire avec Flux. On va en parler juste après. Et surtout aussi, il y a une nouveauté, c'est Laravel Cloud qui est disponible. Voilà, le nouveau service déployer des sites Laravel un peu plus moderne que ce qui existait avec je sais plus comment il s'appelle l'autre système qu'ils avaient déjà en place. Donc voilà.
Forge, non ?
Ouais, c'est ça, Forge. C'est ça, donc la nouvelle version beaucoup plus moderne où tu peux vraiment mieux gérer, etc. Donc là, ça vient de sortir, Laravel Cloud.
Ouais, classe. Et ils viennent aussi avec des starter kits, donc c'est ce que tu disais. Et là, j'ai vu... Il y a en fait des systèmes d'authentification qui sont déjà out of the box. Vue est déjà Vue React ou LiveWire qui est déjà préinstallé, mais on a déjà en fait des batteries de composants. Et là, je vois, il y a déjà le système d'authentification de passkey si tu veux te faire un social connect, tout ça. Tout est un peu out of the box. Ça rejoint un petit peu la tendance un peu des templates ou des boilerplates qui peuvent nous faire gagner quand même vachement de temps sur le début de l'application, quoi.
Ouais, les tout ce qui est React et Vue, c'est basé sur Inertia, donc tu sais, avec le système qui injecte automatiquement les variables dans le front.
Ouais, bluffant.
Et après, ça c'est vraiment pas mal. Après, oui, de toute façon, dans Laravel, t'as déjà un système qui gère l'authentification assez facilement installable, il y a même plusieurs outils pour ça. Et puis LiveWire, ils intègrent aussi des composants Flux, donc on va en parler juste après, mais voilà, ce qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant, Laravel Flux était payant, et donc là ils ont inclus des components free entre guillemets dans le starter kit.
Ouais, facile. Et je vois SSO, Social Connect, Passkey et le Magic Auth où en fait au lieu d'avoir un mot de passe, on t'envoie un espèce de token via ton email, et ce qui te permet de pouvoir te connecter automatiquement. Nice.
Ouais.
Justement, on
Ok.
parlait de Flux. Flux passe en version 2, suite logique,
Voilà.
continuité. Tout l'écosystème est bien orchestré, en tout cas, donc c'est plutôt bien. Et Flux, c'est quoi exactement? C'est une batterie de composants?
Ouais, c'est ça, c'est Caleb qui avait sorti, je crois qu'il n'y a pas encore un an, la version 1. C'est des composants basés sur LiveWire, donc qui sont prêts à l'emploi. Il y a un peu de tout, donc il y a une librairie de components. Et il y a trois nouveaux components qui sont sortis. Là, c'est le date picker, hein. Il y a le calendar et les charts aussi qui sont sortis. Donc ils s'étaient attaqués à ça. C'était des composants beaucoup plus complexes que ce
Ouais,
qu'il avait
gros
jusqu'à maintenant.
sujet. Ouais, c'est tout de suite
Ouais, gros sujet.
des composants qui sont bien plus complexes. Voilà, faire un input, même si les formulaires c'est toujours compliqué. Mais là, en fait, un calendrier, c'est quand même un niveau au-dessus, quoi, clair.
Ah oui, carrément. Ouais. Et donc, ils sont passés sur Tailwind 4 au niveau de la librairie, donc voilà, assez rapidement, assez réactif. Et la nouveauté surtout aussi, c'est qu'il y a des components gratuits, en fait, entre guillemets, qui sont donc disponibles maintenant, qui seront dans les starter kits, puisque jusqu'à maintenant, en fait, tu devais... alors, c'est pas des tarifs énormes, hein, c'est 149 ou 299 dollars pour l'utiliser. C'est-à-dire 300 dollars pour l'utiliser, tu gagnes un temps pas possible. C'est vite rentabilisé. Donc voilà. Et là, donc maintenant, il y a des components, voilà, free qui sont disponibles dans les starter kits. Donc c'est un petit geste de leur part et puis pour mettre un petit peu goût à la bouche, quoi, pour peut-être passer sur un modèle payant pour ceux qui
Ouais.
utilisent les starter kits, quoi.
Après, c'est vrai que pendant longtemps, on a eu un peu cette tendance où on avait des librairies de composants qui étaient gratos. Et il y avait, on voyait apparaître une multitude de composants et il n'y avait pas toujours une certaine homogénéité dans les composants en termes de design. Et donc, en fait, tu faisais à chaque fois les modifs. Et là, on voit apparaître, je pense, depuis l'arrivée de Tailwind et de Tailwind UI, où ils ont créé, même pas, c'est même pas des composants, mais c'était des sortes de boilerplate, uniquement en HTML classique. Et là, en fait, on a fusionné les deux et maintenant, il y en a une profusion, quoi. Là, il y a Flux qui est orienté vraiment sur l'écosystème PHP Laravel. Je pense à Next UI, je pense à ChatCN ou des choses comme ça, où là, en fait, très simplement, on veut du vert, on veut du jaune, on veut du bleu. Bah, tout est homogène, tout est corporate et on vient modifier une fois la config quelque part et ces modifications sont appliquées à tous les composants. C'est vraiment un confort de maboule quoi. C'est hallucinant et c'est super confortable et on gagne un temps de maboule comme tu viens de le dire. C'est
Oui.
hallucinant et c'est vrai que pour moi j'ai déjà entendu des devs dire ouais mais vas-y je vais pas payer des composants tout. Bah en fait vu le temps que tu passes et vu la qualité du rendu que tu obtiens derrière. Aïe,
Bah oui, c'est...
ça serait pas stupide de regarder quoi. Et donc
Bah clairement pour une boîte ou même pour des indépendants, si tu gagnes une journée ou deux facilement parce que tu dois pas recréer les mêmes composants à chaque fois. Bah c'est 300 dollars, c'est rien quoi,
non, c'est
par
que
rapport à ce que
dalle.
tu économises,
Bien sûr,
donc voilà,
bien sûr.
il y a pas
C'est
photo quoi.
y a vraiment pas photo, ouais.
Après ça pérennise aussi, enfin moi je trouve ça normal de payer parce que ça pérennise le projet, ça assure aussi une continuité, et tu sais que si tu choisis une librairie de composants, elle va continuer dans le temps, voilà, qui aura pas, voilà, qui va pas être abandonné ou des choses comme ça. Donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, et j'ai rencontré bah, une société qui avait même du mal à choisir, tu vois,
Ouais, il y a
entre
trop de choix.
ChatCN ou Material UI, ils savaient pas trop, ils hésitaient. En plus il y a des thèmes maintenant qui sont payants, donc pas simple de choisir.
Mais une autre alternative aussi, c'est Daisy UI. Pour ceux qui ne veulent pas payer, il existe en fait Daisy UI, qui est toujours aussi une librairie de composants basée sur Tailwind CSS. Par contre, qui eux sont totalement agnostiques en termes de librairie JavaScript. Là,
Ça,
ça
c'est
va être
cool.
du. Donc, c'est à la fois bien et à la fois pas bien parce que parfois, en fait, ton intégration va être plus facile Si tu as
Ouais,
un...
ouais.
tu vois, donc ça dépend. Mais si tu veux faire que du HTML pur, clairement, ça peut être quand même super plus facile et tu vas gagner du temps et c'est déjà propre. Et de la même manière, tu vas avoir en fait des thèmes qui sont déjà un peu stylisés, ce qui fait que tu choisis ton thème et tu peux même modifier tes propres, tu peux créer tes propres thèmes, tu peux customiser un thème existant. Donc tu peux aller quand même super loin et ça te fait gagner un temps indéniable. Vraiment, moi je l'ai utilisé sur un projet c'est vraiment vraiment bien. Et pour le coup, vu que c'est du pur CSS, en fait, ouais, c'est juste une surcouche sur Tailwind. Et donc, ils ont vraiment fait ça bien. Et ça sort en version 5 parce que Tailwind a été mis à jour. Et donc, ils en ont profité pour faire une majeure. Sur tous leurs composants et la librairie est quand même assez conséquente.
Ouais, grave. Ouais, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de composants et c'est propre hein, dans l'ensemble. En plus, tu vois, ça suit, quoi. Tailwind 4, elle vient de sortir et ils sont déjà, enfin, ça fait pas longtemps, et ils sont déjà mis à jour. Donc,
Ouais,
ça bosse derrière.
non.
Je sais pas si c'est la communauté, je sais pas s'il y a une boîte qui lead le truc ou si c'est juste une
Non, je crois que
communauté.
c'est une personne qui porte vraiment le projet. Après,
Ah
il
ouais?
est peut-être communautaire derrière. Mais
Ouais.
après, c'est quelque chose qui est en place depuis très longtemps, hein.
Oui.
Tu vois, il a vraiment construit tout ça. Donc, c'est pas nouveau. Je pense pas que ça va mourir tout de suite parce que
Ah
y a
non, non.
déjà une certaine maturité et tout. Donc, non, pour le coup, moi, je pense que c'est viable. Contrairement à des librairies de composants qui viennent un peu de popper, qui sont early stage, où ils ont des grandes ambitions, mais ils sont deux ou trois, ou parfois le mec tout seul. Là, c'est en place depuis un certain temps, ce qui relève quand même d'un certain gage de qualité et de sérieux, et surtout de pérennité dans le temps, quoi. Et ça, c'est pas... C'est ça aussi
Ouais.
qu'on cherche, quoi. Clairement.
Yes, ouais, carrément.
Allez, on bascule sur, là, pour le coup, pas des composants, mais souvent des composants qui sont hyper chiants à faire en tant que dev front. On est souvent confronté à jouer, à créer des formulaires, et parfois c'est hyper chiant, c'est compliqué, c'est rébarbatif. Et c'est pas ce qui est le plus funky. Et
Non.
l'écosystème TanStack vient de sortir la TanStack Form en V1. Qu'est-ce que ça amène?
Bah, c'est juste une version stable, officielle, la version 1, voilà, donc on peut l'utiliser en production, c'est ce qu'ils indiquent. Officiellement, tu peux maintenant. Certainement que les gens le faisaient déjà, mais mais là maintenant tu peux, y a peu de problèmes. Et surtout c'est agnostique en fait, c'est une librairie qui marche sur Vue, sur React, sur Solid, enfin voilà, plusieurs frameworks sans problème. Donc ça c'est pas mal aussi. Sur Lit,
Ouais,
voilà, sur
top.
Solid.
Et
Donc
en
ça te permet
fait,
de faire les formulaires.
qu'est-ce que ça amène en plus? Et quoi, il y a une sorte de validation à l'intérieur. Là, je vois, il y a schema validation. Ça veut dire que tu vas lui donner ton schéma. Là, je vois, c'est ZOD, mais ça marche aussi avec Validbot, Archetype et Standard Schema. Et ça, out of the box. Donc en fait,
Ouais.
si on a écrit notre schéma via ces librairies-là, il va automatiquement faire les validations automatiques pour nous, quoi.
Bah ouais, parce que tu vois là dans l'exemple qu'on voit à l'écran, tu as l'âge qui doit être plus de 13 ans. Tu vois, automatiquement ça te valide si l'âge il est à 13 ans. Donc ça fait la jonction avec le field en fait. Non, c'est bien pensé. Ça a
Puissant.
l'air bien pensé. Ouais.
Très, 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 très puissant.
Et bon, ça va avec aujourd'hui, on doit tout typer, donc voilà. Encore un truc de plus qu'on va typer.
Ouais. Après,
C'est l'enfer du typage.
ouais, c'est l'enfer du typage. Par contre, sur le formulaire, clairement, tu vas t'économiser beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Tu vas déjà, en
Bah
fait,
oui.
ça sert à rien de solliciter ton serveur derrière si tu sais déjà que le gars il a mis zéro. Tu vois, bah en fait, minimiser tes chances de solliciter ton serveur une validation qui va échouer de toute façon parce que tu sais qu'elle va échouer. Donc, en fait, tu déplaces ta validation devant, côté front. Et en termes de stratégie, c'est pas stupide, quoi. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un seul fichier de typage. Voilà, t'essayer de t'organiser pour que ton back et ton front soient typés sur le même type, enfin sur le même schéma. Sinon, tu vas t'arracher les cheveux, quoi. Mais
non, mais c'est
ça,
clair.
Ça, c'est un autre problème. Mais sinon,
la
c'est
validation,
quand même pas stupide,
c'est plus simple,
quoi.
Comme ça. Ouais. T'as vu, je sais pas, si tu remontes un petit peu, t'étais sur un exemple de code. Alors, j'ai pas regardé en détail complètement comment ça fonctionnait, mais il y a aussi une version, enfin, il y a des fonctions server side, voilà, qui permettent de valider les choses. Et c'est aussi, tu vois, ça peut marcher avec React Native aussi, Native Script. Et avec Next.js, tout ça. Donc, c'est vraiment, tu vois, multiple runtime, ils disent.
Ouais. Donc, après, on va... Je pense que maintenant, on peut réécouter tous les épisodes de Double Slash où on parlait justement de ça, où on disait que l'avenir, de toute façon, était à la création d'outils et de solutions qui tendaient à devenir totalement agnostiques de framework ou de librairie. Pour les puristes de la sémantique.
Ouais.
Parce que si on fait qu'une seule solution pour React ou pour Vue ou pour Angular, on est cantonné à ce système-là, quoi. En tout cas, à cette librairie-là. Et donc, on réduit potentiellement son usage. Et donc, aujourd'hui, tous les nouveaux librairies, outils qui sont développés pour nous, devs, quasiment tous... Les nouveaux, ils sont tous framework agnostique ou librairie agnostique, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est top, quoi.
C'est une bonne chose aussi parce que ça permettra aux devs de basculer d'un framework à l'autre sans problème en utilisant la même librairie, tu vois. Ils seront toujours à l'aise. Donc, c'est pas mal, ça aussi.
Ouais, carrément. Eh ben, on peut passer d'une librairie à un autre ou on peut passer aussi du JS... au PHP. On connaît en fait le State of JS qui est devenu un peu une institution. Et là, en fait, nos amis de chez JetBrain, éditeur de PHP Storm, reviennent avec un article où on vient parler du State of PHP en 2024. Alors moi, je suis très très loin de cet écosystème. Je connais beaucoup moins, je l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il en sort de cette analyse de PHP en 2024 ?
Alors c'est un sondage qui est quand même, c'est moins complet que les State of JS ou les choses comme ça ou State of CSS. C'est un truc fait par PHP Storm. Il y a 2600 répondants, je crois.
Ok.
Donc bon, ça reste correct. Ce qui sort, c'est les frameworks. Laravel domine largement les frameworks, en tout cas dans les répondants, on va dire.
Ouais.
Donc c'est 61%. Si tu descends un petit peu, tu verras, t'as les frameworks. Ils ont pas pris les genres, par contre. Ils ont pris les âges, les années d'ancienneté, mais ils ont pas voulu demander le genre des personnes. Donc on sait pas si.
Ouais. En même temps, après, on va pas se leurrer. Ok, on demande pas le genre, mais l'écosystème.
Parce que les mecs, on sait très bien.
Voilà, la majorité des devs, c'est des mecs. Ok, on est complètement d'accord que le métier se féminise. Ok, très bien. Mais la réalité du marché, elle est qu'il y a beaucoup plus de mecs que de meufs, quoi. C'est fact, quoi. C'est même pas. Voilà, c'est juste.
Ah, ouh.
Non, mais en fait.
Arrête de prendre des commentaires.
Mais non, mais en fait, il y a une différence entre vouloir que le métier se féminise, c'est une chose. Mais aujourd'hui, en 2024, ça reste quand même un métier qui est hyper, hyper masculin, quoi. Et
ouais,
c'est très bien. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste que c'est un fait, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même.
Bon, après, on sait très bien.
Dev, quoi.
C'est très bien que ça vient principalement de l'orientation. Voilà.
À
un moment donné, ils doivent choisir une orientation. Et évidemment, informatique, c'est pour les mecs, t'es sûr.
On est d'accord. Toujours est-il que c'est Laravel qui tire tout le monde vers le haut, WordPress et après Symfony.
Ouais, alors ils ont mis WordPress en framework, ce qui n'est pas vraiment un framework, mais ça, on peut presque dire que c'est ça, mais bon, voilà. C'est en deux devant Symfony, quand même. Bon.
Ouais.
Après, Laravel vraiment trust le podium.
Ouais, après, ils oublient quand même de dire que WordPress, de toute façon, c'est quand même le numéro un, c'est le patron sur Internet, quoi. C'est là où il y a le
Internet
plus de
CMS,
sites.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Tu vois, donc,
carrément.
Donc, bon. OK.
Donc il y a ça, il y a donc au niveau des éditeurs. Alors forcément, c'est eux qui ont fait le sondage, donc c'est
Ça alors,
PHP
c'est
Storm qui
bizarre.
est
C'est
majoritaire.
JetBrain qui est en premier. Oh là
Ouais,
là.
rien
PHP
d'étonnant
Storm.
là-dessus.
Ouais.
Ensuite, on a un truc sur les comment
Attends,
les
attends, je
devs
t'arrête tout
débug.
de suite. Moi, je
Ah oui,
t'arrête tout de
non,
suite.
pas
Moi, je vois un truc qui me choque. Il y a encore des mecs qui
Tu
sont sur
rigoles.
Notepad plus, quoi. En
Ouais, alors c'est ça.
2024.
Mais tu sais que avant que VS Code tout ça existe dans les écoles d'informatique, c'était ce voilà, c'est ce que les jeunes utilisaient quoi. On les mettait sur Notepad plus quoi, ils n'avaient pas le choix parce que c'était free voilà. Donc je pense qu'il y en a, ils sont peut-être restés toute leur vie dessus, ils ont jamais basculé, je sais pas.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Genre, on va pas jeter la pierre et je pense que plein de gens ont commencé comme ça. Donc, c'est parfait. Mais
Ouais.
Notepad plus, magique, magique, magique.
En fait,
Excellent.
comment les devs ils débuguent et majoritairement, bah ils utilisent le vardump ou le dd ou le dump, ce qui est l'équivalent de console log en JS. Donc voilà, c'est un peu la honte, mais bon.
Ça m'attriste. Je
Mais
te
j'avoue
jure,
que.
ça m'attriste. Et en fait, je vois, en fait, pour avoir travaillé avec des juniors et les étudiants, en fait, ils ne savent pas débugger. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et en fait, ils passent un temps de maboule à mettre des console log. Alors, pour le coup, je ne connais pas les var dump et tout ça. Je ne connais pas en
C'est
PHP.
pareil, c'est
Mais
pareil.
tu me dis que c'est l'équivalent de console log.
Ouais, à peu près, ouais.
Et tu perds un temps de maboule, quoi. Pour le coup, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un workshop sur le débugage en JS. Alors, pour le coup,
Après.
moi, je connais plus le JS, mais pour
Oui,
avoir
c'est pareil,
les
mais
bons outils côté front ou back, quoi.
moi j'avoue que je fais des vardumps et des console log régulièrement, mais c'est voilà, des fois juste pour
Tu sors.
afficher un truc.
Tu sors.
Non mais qui n'a jamais fait ça? Non mais arrête, si je sais que t'en fais des console log, dis pas l'inverse.
Et bah, en fait, écoute, pas tant que ça. Quand vraiment je suis en local, je suis gros fan de débuggeur. Parce qu'en fait, le débuggeur, c'est un point d'arrêt. Et tu viens expecter, au moment de l'exécution de ton code, tu viens mettre un point d'arrêt sur ton code. Et là, en fait, ça change tout parce que tu as tout le contexte. Tu dis, OK, dans ce
Oui, t'as des
contexte-là,
variables et tout.
qu'est-ce que j'ai pas, tout. Et ça, que tu sois en front ou en back. Alors moi je fais que du JS, donc c'est du JS en back et en front, et ça, en fait, bah, ça te donne beaucoup beaucoup plus d'infos, et en fait tu comprends tout de suite ton erreur. Que sur ton console log, tu vas exécuter je sais pas combien de fois avant d'affiner, tu vois. Et non, franchement non, console log c'est fini les gars, faut arrêter. Alors je vais me faire
Okay.
trasher là
Bon.
aujourd'hui, je sens
Non,
que
non, mais après,
je suis vénère.
c'est un débat, de toute façon, le debug et les tests, tu vois, ça va ensemble. Donc,
Ben ouais,
voilà.
ben oui, bien sûr.
Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, l'IA.
L'adoption de l'IA,
Ouais,
ah, hyper intéressant.
l'adoption de l'IA. Et donc, alors, étonnamment, c'est ChatGPT qui est plus utilisé que Copilot. Alors, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que à chaque fois, ils vont sur ChatGPT poser des questions et mettre les morceaux de code, alors que tu as Copilot dans VS Code qui est disponible,
Ah,
où tu peux
bizarre.
chatter avec lui. Donc, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est majoritaire, ChatGPT. Et l'IA de PHP Storm n'est pas très, très utilisée. Si tu reviens sur le graphique, tu verras que
Ah ouais,
c'est
après
un peu la loose,
peut-être
quoi.
que c'est encore récent et que tout le monde n'a pas upgradé son
Ouais, ça fait
JetBrain ou tu vois, je
ça fait
sais
un petit
pas.
moment qu'ils l'ont sorti, hein.
OK.
Bah, alors, pour le coup, ils utilisent tous majoritairement PHP Storm, mais pas
Ouais.
l'IA, en tout cas. Ouais,
Bizarre.
étonnant.
Bizarre.
Donc voilà, en gros, quoi, ce qui ressort de de ce sondage.
Bon, intéressant, si vous êtes développeur PHP. Et
Yes.
si vous êtes encore dev développeur PHP et que vous voulez faire du natif, donc de l'embarquer quelque chose sur votre téléphone, il existe natif PHP. Grosse, grosse surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. C'est à quel stade là? C'est early stage, c'est
C'est bêta.
OK, c'est
C'est en
bêta.
version bêta. C'est en version bêta. Donc, alors il y a une version desktop qui te permet de faire des applications desktop avec Electron. Et puis après la
Ok.
version mobile qu'on a sous les yeux, qui permet de faire des applications mobiles avec du PHP qui tourne derrière, un peu à les React natives. Donc il y a une sorte de comment dire de de ah j'arrive pas à trouver le mot de communication entre PHP et le langage natif quoi et du mobile et donc ça a l'air de fonctionner correctement. Enfin j'ai pas approfondi, j'ai pas testé mais voilà t'as pas mal de choses qui sont accessibles, les caméras tout ça.
Donc, et donc ouais, ils ont développé une espèce de SDK pour connecter en fait toutes les API natives avec le PHP, ouais. Quoi, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça te permet derrière d'utiliser, bah, j'imagine des frameworks ou des choses comme ça. Tu peux installer la Laravel certainement dans ton application pour faire des appels base de données, etc. Tout gérer et en même temps afficher les choses sur le mobile. Donc à voir,
intéressant.
À tester.
Intéressant.
Super intéressant, ouais.
Pour les personnes qui sont
après en fait PHP, quoi.
exactement et je vois quelqu'un qui va être super agile et en tout cas compétent avec du PHP, peut-être ça sera beaucoup plus facile de passer sur ce genre de framework là pour créer un outil natif que de repartir de scratch iOS, Android. Peut-être que ça va être méga, beaucoup plus compliqué à faire, en tout cas, sous couvert que la performance n'est pas un enjeu majeur, quoi. Parce que je reste intimement convaincu que plus il y a de layers et plus tu vois, ça va générer du métacode et tout ça. Et là, potentiellement, la qualité, en tout cas, la perf intrinsèque de l'application. Mais en même temps, si c'est pour faire une to-do list ou pour afficher un site ou des choses comme ça, bon, qu'importe. Enfin, ça passe.
Ouais, ou des applications internes pour une société ou des choses comme ça où la performance, elle n'est pas primordiale. Tu vois.
Ouais, exactement.
Après, on ne sait pas. Peut-être que ça se trouve, c'est super performant. Hein.
Exactement. J'ai une idée, mais... Je ne veux pas jeter la pierre.
Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'une boîte, par exemple, qui a que des devs PHP, bah, ça peut lui ouvrir les portes pour développer des applications mobiles internes ou des, voilà, ouais. plein d'idées comme ça. Sans clairement. Devoir embaucher un développeur JS ou natif. Voilà, donc, c'est pas mal.
Non, clairement. PHP natif PHP. Allez, on reste dans justement l'écosystème PHP.
PHP aujourd'hui.
On parle beaucoup de PHP. On avait parlé lors du dernier épisode de Fusion où on savait pas comment c'était fait. On se posait la question comment ils arrivaient à faire justement un espèce de composant PHP dans du Vue. On comprend pas. Petit podcast de Aaron Francis, je crois. Qui nous explique et petite vidéo de la même personne où là il vient expliquer comment ils ont fait et surtout ils viennent en fait expliquer le corps du concept et donc c'est grâce à Vite, c'est ça que tu me disais?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en fait Vite va extraire le PHP pour le mettre en mémoire, après le faire fonctionner. Injecter les variables dans le JavaScript pour Vue, et etc. Et éventuellement faire système de component de Laravel. Voilà, donc c'est vraiment une extraction du code PHP, du template, pour l'exécuter à part, en fait. Donc, c'est pas un système magique, tout ça, mais ça fonctionne. C'est basé principalement sur Vite. Donc, les plugins, tout ça, qui vont extraire le code. Donc, c'est pas mal. Excellent. Bien pensé, en fait, c'est pas bête.
Ouais, et pour le coup, moi qui viens de l'écosystème Vue, on retrouve vraiment cette même logique, quoi. C'est une balise template. D'habitude, on a une balise en fait script, et là, pour le coup, en fait, on a une balise PHP. Et donc, c'est vraiment vraiment copie conforme, sauf qu'au lieu d'écrire du JS, on va écrire du PHP. C'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf.
Ouais, c'est pas mal. Après, on commence à avoir, dans l'écosystème Laravel, on commence à avoir pas mal de choix entre Livewire, Vault, où tu fais des components, Inertia, ça. Enfin, à un moment donné, ça va devenir difficile de savoir comment je vais faire du JS avec Laravel, parce qu'il y a tellement de choix.
Ouais.
Il faudrait pas un peu unifier tout ça, parce qu'à un moment donné, ça fait trop de choix.
Ouais, je suis partagé sur l'unification ou tu vois la centralisation et le côté où on n'a pas le choix et c'est comme ça et on nous formate. Je préfère largement avoir un choix et choisir le paradigme qui nous intéresse. Ça me paraît plus intéressant, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça, quoi.
Ok.
Avoir, non, mais avoir, en fait, garder le choix, ça me paraît intéressant. Et moi, je ne suis pas trop fan qu'on nous dise tout l'écosystème PHP, maintenant, ça sera comme ça. Et on n'a pas le choix.
Ouais,
c'est,
non, mais...
c'est le standard. Même si ça amène plein de qualités de, pour les entreprises, non, parce qu'on vient standardiser des choses, quoi. Tu vois, donc,
ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que ça se ressemble beaucoup, en fait. Tu vois, ce que tu vas faire avec Inertia, okay. ça ressemble beaucoup à Fusion. Ou voilà, donc on est très proche, c'est de l'injection de variables dans le code JS. Enfin, c'est vraiment très très proche. Donc après, tu sais plus est-ce que je prends celui-là ou celui-là, quel est l'avantage ou pas, alors que c'est quasiment pas, ça se ressemble beaucoup. Donc après, peut-être que Fusion va être fusionné avec Inertia, je sais pas.
Mais, ok, ouais. En fait, toi, t'es en train de me dire que le paradigme de chaque solution, c'est pas game changer à chaque fois, quoi. Il y a des toutes petites variations, quoi. Donc c'est relativement proche, quoi. Ok.
Parce qu'en fait, ce que t'as besoin, c'est de, en fait, ce qui facilite, c'est on n'a plus besoin d'avoir du headless, c'est-à-dire d'avoir des appels fetch sur un headless. Là, c'est carrément injecté d'office dedans. Donc ça nous enlève ce système où on retrouve notre template vue avec déjà les variables disponibles. Ouais. Les infos de l'utilisateur, tout ça, ça fait des requêtes directes, ça injecte les résultats dedans. Donc, tu vois, Donc, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Donc.
Ok. Alors, je comprends mieux ta question. Ouais. De dire, ok, mais comment on fait pour choisir, quoi? Parce que c'est pareil, quoi. Bien sûr. Et puis, quand on parle de choix, ce qui peut être super intéressant, c'est d'utiliser aussi une autre possibilité pour fetcher, en fait, faire ses appels API dans l'écosystème Vue. Dans l'écosystème JavaScript. On connaît tous Axios qui a dominé le marché pendant très, très longtemps. Mmh. Côté Node, il y a la librairie du Create. Quelqu'un qui fait partie du corps de chez Node, Matteo Colina, qui a un très bon système qui s'appelle Undici. Et là, il y a un nouveau client Fetch Client, par contre, qui se dit un petit peu plus avancé que les autres. Il s'appelle UpFetch. Et qu'est-ce qu'il amène de plus sur la table ?
En premier, principalement, il y a beaucoup de choses bien pensées, mais surtout il y a le typage, en fait. Il t'apporte beaucoup de typage. Et c'est-à-dire, tu peux typer les réponses de ton appel, etc., avec Zod, tout ça. Donc, déjà, il est light, c'est 1,2 kilobytes. Donc, il est plutôt light, l'outil. Et surtout, ouais, ce typage, en fait, que tu peux déjà déclarer pour valider la réponse quand tu fais ton fetch. Donc, okay. L'exemple est un petit peu plus bas. Ça, c'est pas mal.
Et ok. Ouais, après, il est agnostique, on va dire, par défaut. Enfin, pas agnostique, mais parce que c'est Zod, Valibot, Archetype. On revient sur ce système de typage où ça devient, en fait, un peu un standard partout, quoi.
Ouais, tout devient typé, ouais, ça devient. Mais là, l'exemple, tu vois, l'exemple, il est très parlant, c'est que vraiment, tu fais ton fetch et tu as un schéma qui te dit ce que tu vas recevoir en réponse, et c'est réglé, quoi.
Et donc, ce qui t'évite de faire ta. En fait, c'est comme si ta validation était intégrée dans ton client. Au lieu d'avoir ton client fetch, ta librairie de validation, là, en fait, ils ont fusionné les deux, où ils viennent mettre la validation au sein même du client, quoi.
Okay. En plus, je te dis une bêtise, parce que tu vois, c'est le request qu'on est en train de typer. Donc, mais normalement, il me semble que j'ai vu la réponse aussi, tu peux la typer.
Ok.
Ouais. Je sais plus, enfin, mais c'est dans la doc, là. Mais...
Ok. Mais... hyper intéressant, tu peux aussi fait mettre un timeout sur ta request. Intéressant.
Ouais, ça met du temps à répondre, ouais. Donc voilà, plein de petites choses comme ça.
Petit tools sympathique à tester. Allez, on reste dans l'écosystème PHP avec... pas PHP, justement. JS, je vais y arriver.
Est-ce que tu avais arrivé à dire le nom ?
HMPL. Oh, t'es une mauvaise foi. HMPL. qui se veut, en fait, un moteur de template JavaScript et qui vient, en fait, en concurrence directe avec du HTMX.
Ouais, HTMX, enfin ouais, un peu de tout, mais c'est vraiment un moteur de template. Assez particulier. Alors, je sais qu'il y a des choses... je l'ai découvert parce que j'avais vu un tweet, il disait qu'il y avait des choses automatiques. Notamment, il va mettre le body automatiquement, etc. sur un morceau, un fragment HTML. Je sais qu'il y a plein de choses comme ça. Mais il y a aussi la gestion des événements qui est un peu particulière où on... Dans l'exemple, là, je sais pas si on voit bien, mais c'est une sorte de JSON où tu vas dire la source, qu'est-ce qu'il doit faire après, tout ça, un peu à la HTMX, mais sauf que voilà, tu l'écris un peu voilà, comme un objet, et ça te met de l'événement sur le bouton, par exemple. Donc voilà, c'est la particularité de ce template, c'est l'écriture des événements, tout ça, donc c'est tout nouveau, hein, je crois. Mais...
Après, ils ont même fait un article où ils expliquent vraiment les différences entre le HMPL, qu'on parle, et HTMX, justement, où, à mon avis, c'est quand même une inspiration assez forte, quoi. Il y a quand même des grandes similitudes, après, avec un paradigme qui leur est propre, mais ouais. Après, je sais pas si c'est early stage, si c'est... là, je vois, il y a pas beaucoup de stars, alors même s'il faut pas regarder sur le stade, ça reste quand même assez early stage, quoi. Donc, c'est bien pour...
Ouais, c'est tout nouveau. Hein. Ouais.
Pour passer une soirée, pour tester un peu le concept, mais peut-être faire un POC si on a envie de s'amuser, mais mettez pas ça en prod, quoi. On est d'accord ?
Ouais.
On est d'accord. Allez, il y a un autre truc sur lequel je pense qu'il faut vraiment passer en production. C'est si vous êtes développeur front et vous ne maîtrisez pas les Flexbox. Là, pour le coup...
t'es pas développeur front, hein, si tu maîtrises pas Flexbox.
On est d'accord.
Et Grid encore moins. bon, Grid, allez, c'est plus compliqué Grid, mais bon.
Allez, Grid, je te l'accorde, c'est pas toujours... ça peut être un petit peu plus complexe, mais les Flexbox, ça quand même, c'est quand même une énorme base. Et là, en fait, on vient avec un petit outil qui s'appelle Flexbox Lab et en fait, qui a pour but de nous expliquer en fait toutes les propriétés et de voir les différences, quel est l'impact. Et en fait, visuellement, on vient modifier chaque valeur de propriété, donc flex, display flex, display block, les directions, les wraps, les justify, les choses comme ça. Et tout de suite, ça nous donne vachement plus. Et visuellement, on voit immédiatement ce qui marche.
Le gap et tout. Ouais. Tu peux rajouter des items aussi, tu as un petit plus et tu rajoutes des éléments. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et tu as la même version qui existe pour Grid.
Hyper intéressant.
Il y a le lien là et c'est la même chose en Grid.
Et là, pour le coup, ça peut être super
là, c'est top.
Compliqué. Et ouais, parce que là,
Grid, là, c'est quand même, c'est une autre dimension. Avec
mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut d'abord maîtriser Flexbox avant de passer sur les grids. Sinon, c'est même pas la peine. Ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Donc,
La Flex, ça fait un moment quand même que c'est dispo. Hein,
ouais, je suis d'accord. Mais force est de constater que parfois, Flexbox, non, je connais pas. Ça m'est déjà arrivé.
Bah, je t'avoue que moi, perso, j'utilise de plus en plus Grid.
Oui.
Même en termes de responsive. Tu peux faire vraiment des colonnes qui passent les unes au-dessus des autres automatiquement en fonction de ce que tu as fait en minimum. Tout ça.
C'est trop bien.
C'est puissant, ouais.
Ouais. Après, là tu es sur un usage hyper avancé en fait de Flex Grid. Pardon, de Display Grid où tu viens en fait faire des layers, tout ça. Là, c'est le niveau, niveau au-dessus. Mais déjà, je pense que juste construire des layouts de pages avec Grid, déjà, c'est déjà mais vache. Moi, je vois vraiment l'usage au quotidien sur tes layouts de pages. Bam, tu les fais avec des grids. Ça marche vraiment, vraiment bien. Non, top.
Puis c'est pris en charge maintenant partout.
Oui.
Plus de limite, quoi.
Carrément. Allez, petit article assez long d'ailleurs. où on vient parler de React. Et en fait, pour chaque sujet, l'auteur vient en fait nous présenter un peu les meilleures librairies dans l'écosystème React pour faire du state management, pour faire du data fetching, du CSS styling, des librairies UI, des librairies d'animation, pour
très,
tester,
très long article.
Du paiement, de gérer des times pour faire des uploads, pour faire du drag and drop. Hyper complet. Je pense que de toute façon, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Mais je pense que si vous êtes développeur React, ça peut être super intéressant de regarder un peu tout ça, parce que il vient présenter en fait toutes ses recommandations et pourquoi. C'est un article qui est, comme on l'a dit, assez long, mais qui peut être super intéressant sur si vous faites partie de l'écosystème React.
Ouais. Très intéressant, ouais. Plein de conseils, il explique pourquoi, tout ça, donc voilà. Ce qu'on doit utiliser en 2025 d'après Robin.
Robin, mais c'est top. Il fait ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire faire le relevé de toutes les possibilités. Quand on veut faire, par exemple, un drag and drop, bon, bah, il faut qu'on fasse un benchmark de tous les trucs de drag and drop. Pourquoi c'est simple? Lui, il a déjà fait une présélection, ce qui peut nous faire gagner taquet de temps, quoi. C'est top.
Ouais.
Allez, on aborde le sujet du CSS. Pour le coup, on sait que avoir un texte équilibré en CSS, ça peut être très, très, très compliqué. Et petit article qui nous explique en fait comment on peut faire ça, quel est le problème et comment le résoudre.
Ouais, long article aussi, pareil, de Ahmad, où, assez interactif. Et donc, c'est le comment aligner le texte, etc., comment le wrapper. Donc, il y a plein d'exemples, il explique comment faire, il y a des choses où tu peux bouger, voilà. Donc, il est vraiment pas mal et ça peut être une problématique assez régulière, le placement du texte. Alors, aujourd'hui, il y a Balance qui est bien pris en charge, il y a Pretty qui arrive, qui est encore,
pris
en charge partout. Ouais, mais c'est déjà mieux qu'avant. Déjà avec Balance, déjà même si des fois il a des comportements un peu bizarres, mais ça permet si vous êtes dev front de voir un petit peu les différentes possibilités, de tester et, voilà, peut-être de vous améliorer aussi sur le placement du texte, des titres, tout ça.
Et pour le coup toi qui as bossé avec une langue allemande, tu valides que c'est magique?
C'est magique. Non, il y a des Alors maintenant avec les propriétés CSS, t'arrives à bien t'en sortir. Mais oui. Pour ceux qui ont déjà fait de l'allemand, il y a des mots à rallonge et là t'es obligé de faire des retours à la ligne et voilà, à quel moment tu le fais revenir à la ligne, etc. Donc c'est pas forcément évident. Mais j'ai travaillé avec des devs qui maîtrisent pas mal ça, des devs suisses qui ont l'habitude de bosser avec l'allemand.
Ouais.
Je pense que l'allemand c'est le pire au niveau de la longueur des mots.
Et par
après,
contre,
je connais pas les langues, mais
Pretty est pas encore super bien.
Non, il est pas encore dans Firefox et Safari, donc c'est pour ça que généralement tu mets d'abord Balance et après tu mets Pretty en dessous dans ton CSS
pour avoir
Pretty
une sorte de fallback
sur Balance. Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok. Là, designer,
Pretty est vachement mieux.
Designer, intégrateur, on vous invite à lire ce petit article hyper pédagogique qui nous explique toutes ces subtilités-là sur la gestion du texte Pretty.
Ouais, tu vois, celui juste avant, là, le fameux ta grid là, avec les textes, dès que t'en as un qui revient sur deux lignes,
c'est l'enfer. C'est l'enfer.
Ouais.
c'est vraiment l'enfer. Et pour le coup, j'ai dû gérer ça et c'est là où je me suis penché. C'est intéressant. Très intéressant. Top. Merci. Merci pour cet article bien, bien poussé. Allez, on reste sur de la configuration maintenant, sur un article pareil, assez long, mais où les développeurs. Qui font partie du corps de Git, donc ceux qui développent Git, nous expliquent en fait comment ils configurent leur Git. Et on apprend quoi là-dedans? que c'est mal configuré, qu'on a mal configuré notre guide config ou pas?
Bah, que c'est comme Excel, en fait, on n'utilise que 10%.
C'est un peu comme Excel, ouais, je suis d'accord. Tu n'utilises que dalle.
Donc, on est loin de savoir toutes les possibilités de Git, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il y avait une formation Delicious Insight là, avec Christophe Portneuve là, qui a arrêté les formations, mais qui faisait une formation Git où il expliquait pas mal de choses. Moi, j'ai jamais eu la chance de la faire. Okay. Mais je sais que quand tu sortais de là, tu devenais vraiment
un Git master, quoi.
Ah ouais.
Et après, hyper intéressant, il explique justement l'article en fait résume un petit peu tout ça, comment on peut utiliser toute la puissance en fait de
ouais
de
la
Git.
Config et tout ça quoi, ouais. Ouais.
Et pour le coup là je vois les tags,
il y a beaucoup de config en fait,
ouais. Et je vois les tags, moi c'est quelque chose que j'utilise pas assez et je pense que j'ai une grosse marge de progression là-dessus. Et si on peut automatiser des choses ou nous simplifier la vie ou avoir des différences visuelles avec de la coloration ou des choses comme ça directement depuis le terminal, ça peut être super, super intéressant.
Bah, ouais, bah ça justement c'est de la config globale où tu vas faire les diffs, ouais. Tout ça, et là tu vas commencer à avoir de la couleur tout ça, donc bon, alors c'est vrai qu'on a VS Code qui nous affiche ce qu'on a modifié tout ça la plupart du temps, donc c'est facile, mais si t'as envie de t'amuser à le faire dans la console, bah, voilà, il y a de la config à faire pour que ça s'affiche bien, quoi, correctement.
Ouais, après ce qui peut, là je suis sur l'article, enfin sur la section qui parle du push, où en fait, quand on vient pousser notre code, voilà, on peut modifier les valeurs par défaut pour que, en fait, ça vienne créer la branche automatiquement. Tout. Enfin, non, c'est hyper poussé, quoi. C'est hyper poussé. Hyper intéressant, je pense, de monter en compétence là-dessus.
Bah,
après,
oui, oui.
Le problème de ça, c'est que, en fait, une fois que tu as fait ta config, OK, tu as pompé un peu le savoir. Après, objectivement, c'est le genre de truc que tu touches plus trop, quoi. Tu es assez passif là-dessus et voilà quoi.
Ouais, bah après, oui, c'est clair. Après, souvent, tu oublies les choses et tout. Donc, c'est là où il faut se faire une note où tu vas essayer de noter tout ça pour te rappeler quoi.
Yes.
Pour que dans un an, deux ans, quand tu changes d'ordi, tu refasses la même config.
Exactement. Exactement. Yes. Allez, on passe sur une config qui, pour le coup, est assez simple à mettre en place si vous voulez mettre un moteur de recherche au sein de votre applicatif. On connaît tous Algolia, mais là, on va parler de Melisearch, qui est l'alternative open source qui peut être déployée sur du cloud ou sur du self-hosted et qui vient en fait se fortifier, on va dire s'améliorer avec de nouvelles fonctionnalités, surtout tout ce qui est prise en compte du vecteur et de la recherche sémantique via l'IA, où justement dans cette version 1.13 l'IA passe en mode native et non plus derrière un feature flag, un experimental,
ouais,
feature
ça.
Quoi.
Ouais, c'est ça. Il y avait, ils ont rajouté une. Alors là, on est dans la rubrique IA, on est dans la dernière rubrique de l'épisode. Ils avaient fait cette expérimentale feature où tu mettais un modèle d'embedding pour vectoriser en fait ton contenu en fait que tu envoyais dans ta base de données pour une indexation. Et ensuite, tu pouvais faire de la requête avec du vecteur en fait pour retrouver plus efficacement certains éléments. Et donc là, c'est sorti, comme tu dis, d'expérimental. Donc c'est par défaut, il n'y a plus besoin de l'activer. Et donc voilà, on peut l'utiliser facilement. Et il y avait aussi, on a vu qu'on pouvait utiliser Olama, je crois, c'est ça, hein ?
Oui, exactement. En fait, pour générer tous tes vecteurs, soit tu branchais OpenIA, soit tu pouvais brancher en fait un embedder, un embedding un peu classique. Et là, en fait, ils ont branché. Il y a possibilité de mettre Olama. Donc c'est super puissant, quoi. Top.
Ouais, top, puis ça marche bien. Moi, je l'ai sur une version self-hostée.
Ouais.
La recherche vecteur, tout ça, et ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est
bluffant. C'est bluffant.
Ouais,
c'est top. C'est top.
Mais donc, a priori, il y a d'autres choses qui arrivent sur Minisearch au niveau de l'IA. Ils travaillent beaucoup dessus. Il y a plein de nouveautés. Donc, voilà. Ils sont en train de basculer là-dessus. Donc,
à suivre. Bah, de toute façon, c'est la suite logique. Je reste intimement convaincu que le vecteur, enfin, la recherche full texte, il masterise le truc. Vraiment, voilà, c'est en place. La suite et l'évolution des features passera par justement l'utilisation de tout ce qui est vecteur et toute la recherche sémantique, quoi, clairement. Clairement. Yes. Allez, on bascule dans la partie IA où là tu nous présentes Mastra qui se veut en fait un framework pour développer des agents IA mais tout en TypeScript, ce qui n'est pas souvent courant parce que la plupart, dès qu'on dit le mot IA, la plupart du temps c'est en Python et là Python. C'est en JavaScript et ça nous permet en fait de créer des agents simplement, facilement.
Alors ouais, ça c'est. Alors déjà la grande nouveauté, c'est qu'on a de plus en plus d'outils en JS, TS, souvent en TypeScript quand même la plupart du temps parce que voilà, on veut du truc carré, bien typé. Mais alors les créateurs de ce framework IA, c'est les gars de Gatsby. Alors ça peut être pas très rassurant.
Exactement.
Si on investit dessus et qu'ils dans deux ans ils le revendent à Netlify, bon bah c'est pas cool. Mais
ouais, c'est ce qui fait un peu peur, mais en même temps ils ont quand même la maturité de l'expérience d'un framework, de créer un produit, de shipper le produit,
voilà.
De répondre à un besoin. Ils sont très bons en marketing, ça on le sait.
Donc
à regarder.
Alors, c'est un super truc. Moi, j'ai testé un soir, là, vite fait. C'est très puissant. Je suis super enthousiaste dessus et j'adore. Moi, actuellement, j'utilise Langchain JS pour faire des agents, tout ça. Alors, c'est le même principe. Tu fais des workflows, tout ça. C'est ce qu'on voit juste à l'écran, là, avec les steps, les zen, tout ça. Où tu vas faire tout un workflow d'étapes dans ton appel. Mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Ça va te créer une API. En fait, tu vas faire des agents, tu vas faire des tools pour faire des appels à des API. Tu vas faire, il y a plein de choses comme ça. Tu peux chunker le texte. Il y a tout plein d'utilitaires. Et à la fin, quand t'es en version dev, par exemple, tu fais npm run dev. Ouais. T'as un API qui fonctionne et tu vas faire des appels. T'as un playground qui marche où tu peux faire jouer avec ton cat. Il y a plein de choses et c'est, enfin franchement, c'est, moi je trouve ça génial, je suis hyper enthousiaste et j'étais trop content de découvrir ce truc. En fait.
T'es méga hypé par Mastra, quoi. T'es méga hypé, trop bien. Mais je pense pour la création d'agents, ça peut être super super intéressant, quoi. À tester. Bah,
actuellement,
si on veut se pencher dessus,
actuellement,
quoi.
Ils parlent que de ça, donc on parle que d'agents depuis 2 mois.
Ouais.
Donc, je pense que voilà, il y a des choses à faire et là l'outil est plutôt sympa, quoi.
Nice. Allez, on reste dans la partie IA où on vient le navigateur Opera vient intégrer directement sa partie son agent IA en fait qui vient de manière native totalement intégré dans son navigateur. Pour nous permettre en fait de répondre aux questions immédiatement au sein du navigateur, quoi. Et toi, tu as testé déjà ?
Opera, c'est un navigateur norvégien. Déjà, c'est européen. Ça, c'est une bonne chose, tu vois.
Ok. Donc,
ça fait à peu près un an qu'ils ont intégré l'IA dans leur navigateur. Alors, moi, j'utilisais plus du tout Opera. Hein, et cette news m'a fait re-télécharger Opera et tout. Et j'ai retesté. Okay. Oh, c'est cool. En fait, il est pas mal. Évidemment, ça va être basé sur Chrome. J'ai pas cherché, mais je pense que c'est Chromium, etc. Bon, ça, on s'en fout parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dedans, là, il y a l'IA. Donc, l'IA intégrée est plutôt pas mal parce que tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des résumés de la page sur laquelle tu es. Enfin, voilà, tu peux lui demander plein de choses. Donc, il est assez efficace. Et la nouveauté, là, en fait, c'est que c'est un agent qui va naviguer à ta place, c'est-à-dire tu vas lui dire achète-moi la basket Nike machin, je sais pas quoi. Wow. Il va aller chez Nike, il va naviguer tout seul en fait, il va aller chez Nike, il va trouver la chaussure dans ta pointure, il va la mettre dans le panier et à la fin tu auras juste à payer. Voilà. Donc en fait il bosse pour toi, dans le navigateur. En fait la vidéo présente ça exactement. Donc c'est pas mal. Okay. Et donc c'est pas testable encore parce que c'est en preview et c'est pas encore officiellement lancé, mais ils ont annoncé ça sur le World Mobile Congress, je crois.
Okay.
Voilà. Donc assez wow. Assez intéressant comme fonctionnalité. Et dans la foulée, bah tu as Perplexity qui avait aussi annoncé à peu près la même chose. Donc ça, on l'a entendu à peu près dans tous les médias, comme quoi Perplexity lançait Comet, un nouveau navigateur aussi, pareil. Et par contre, il n'y en a pas un qui a été capable de dire que c'était à peu près la même chose que ce qu'on vient de décrire sur Opera. En fait, c'est exactement la même chose. C'est un agent qui va naviguer à ta place, qui va faire qui va exécuter des tâches à ta place. En fait, il va naviguer, il va faire des choses.
Ouais, il va crawler, il va aller voilà. faire des recherches.
Donc, un agent qui cliquer.
Waouh. Voilà, donc, ça passe sur un autre step, quoi.
Bah, c'est assez intéressant et en même temps, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, mais est-ce que dans 2 ans, on fera encore des sites pour les humains ou pour les IA,
les agents c'est... Non, mais ouais. En fait, on fera et je serais pas surpris que demain, en fait, on soit obligé de faire des sites orientés agents pour que, ouais. en fait, l'agence pour faciliter le boulot de l'agent. Et donc, ça se tient, ça serait carrément possible, il n'y aurait pas de surprise à ça, quoi.
Ouais. Disons qu'on ne fera plus de design, en fait, on fera juste des sites avec des liens, il n'y aura plus de CSS.
Peut-être, ouais. Peut-être, malheureusement.
Donc, c'est assez intéressant, mais en même temps, ça interpelle et on se pose des questions, parce que ça va certainement généraliser de toute façon, c'est évident.
Ouais, est-ce que c'est pas la suite, une suite logique, tu vois, une sorte d'évolution et en fait, il faut bien garder en tête que la nouvelle technologie ne va pas supprimer, écraser l'autre, elle va juste amener autre chose et donc il y aura les deux qui seront en place, quoi. Tu vois, il y aura toujours des mecs qui vont naviguer, il y aura des agents qui vont naviguer aussi et donc... On facilitera le boulot de l'utilisateur, des agents, comme en fait on fait déjà pour le SEO. Tu vois, on vient faire un site pour l'utilisateur, mais aussi on l'optimise, parfois on le suroptimise pour le SEO. Demain on fera une optimisation pour les agents.
Ouais, de toute façon c'est clair.
Tu vois, c'est un peu logique.
Mais bon, ça va quand même. Dans un avenir plutôt proche quand même entre ChatGPT, enfin je sais pas toi mais perso moi j'utilise pas mal ChatGPT tout ça, au lieu d'aller chercher sur Google, tu vois, poser des questions sur Google tout ça, maintenant c'est quasiment 50-50, tu vas sur ChatGPT pour poser la question. De toute façon il est aussi efficace puisque c'est des choses qu'il a déjà vues, il a bouffé tout le web donc il sait à peu près tout, donc il est capable de te répondre, plus les agents là qui marchent tout seuls sur les navigateurs, tu te dis bah ouais, là dans dans un avenir proche quand même le web va beaucoup changer, quoi.
Il faut rester optimiste, Patrick. Faut rester optimiste.
Ah non, mais c'est pas grave hein, en soi. C'est juste qu'il va falloir repenser notre métier, quoi.
C'est clair.
Certainement.
C'est clair.
On va travailler différemment.
Ça, c'est certain. On en reste là pour cet épisode-là, Patrick. Tu auras donc le mot de la fin sur cet épisode. On vous dit un grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt. Peut-être que la prochaine fois, c'est un agent qui fera le podcast, mais bon.
Ah ouais, ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Allez, ciao,
à
ciao.
Plus, ciao.